Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Pierre Schoeffler. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes notamment senior advisor à l'IOIF, conseiller du président de la Française, mais surtout économiste et spécialiste reconnu des FIA immobiliers et de leurs marchés sous-jacents. C'est ma première question sur cet état, l'état des marchés immobiliers. Effondrement des transactions s'est acté en 2023. Le volume est de l'ordre de 14 milliards. Projection 2024 ne laisse pas espérer un rebond significatif. Quant à la valeur des actifs, l'équilibre entre vendeurs et acheteurs ne semble pas encore avoir été atteint. Mais y a-t-il néanmoins des signaux positifs envoyés par le marché? Peut-être le rebond des foncières cotées en bourse?
Oui, effectivement, il faut s'accrocher à quelques signaux de marché. Je rappelle que en 2022, les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne ont fait un bond absolument considérable de 450 points de base. Les taux long terme, qui sont beaucoup plus importants pour l'immobilier, pour la valorisation de l'immobilier, sont montés de 300 points de base pour le taux de l'OAT 10 ans. Donc, c'est un choc majeur qui s'est passé en 2022. L'immobilier a commencé à réagir en fait au travers de l'immobilier coté dès mi-2021. En fait, il y a eu des premiers signaux d'alerte sur l'immobilier coté alors que la Banque Centrale Européenne n'avait pas encore augmenté ses taux d'intérêt.
Donc c'est un indicateur avancé.
Ils voyaient que l'inflation partait et ils se sont méfiés tout de suite. L'immobilier coté s'est mis à baisser par rapport. Alors ça se mesure sur le cours de bourse par rapport à la valeur d'actifs nets et aujourd'hui, l'immobilier coté indique que en Europe, quel que soit le segment, l'immobilier devrait baisser d'environ 30% par rapport à ce qu'il était fin 2021. 30% de valeur donc de baisse, c'est le signal envoyé par l'immobilier coté. Ce signal a commencé à être envoyé mi-2021 et il est stable maintenant depuis 6 mois. Et en fait, depuis quelques mois, depuis 2-3 mois, ça remonte un peu, donc ça montre que l'immobilier coté a sans doute estimé que 30% de baisse c'était un peu trop. Et aujourd'hui,
ça veut dire qu'on serait à un palier.
On serait à un palier. Alors, l'immobilier coté mi-2021, alors que l'immobilier a véritablement réagi mi-2022, c'est un an d'avance. Donc on est en décembre, l'immobilier coté réagit, ça signifie que dans un an. On devrait atteindre la stabilisation, je ne sais pas.
D'accord. Il y a des autres indices, notamment celui de MSCI, le PEPFI. Qu'est-ce qu'il donne, lui, en termes de volume et en termes de performance?
Alors, le PEPFI, c'est un indice de fonds institutionnels ouverts en pan-européen, trimestriel, très intéressant. C'est toujours des valeurs d'expertise, là, on n'est pas dans des valeurs transactionnelles. Cet indice donne une baisse des valeurs depuis mi-2022 jusqu'à mi-2023, jusqu'à septembre 2023, excusez-moi, puisqu'on a le mois de septembre, d'environ 15% du marché immobilier dans son ensemble en Europe. Donc c'est un signal assez fort. Ce qu'il faut voir dans cet indice, c'est qu'en fait, trimestre après trimestre, la dynamique de la baisse perd de sa vigueur. Donc 15% de baisse, mais avec, je dirais, une dérivée seconde qui est en train de devenir positive. Donc,
mais en fait, un des principaux problèmes du marché aujourd'hui, c'est son illiquidité, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de transactions. Ça, est-ce qu'il y a des signaux qui permettent de penser qu'en 2024, il y aura un certain déblocage des transactions au moins?
Oui, alors, il faut évidemment regarder le marché phare, là, le marché de, par exemple, les bureaux Prime Paris QCA, qui est quand même le marché phare de l'immobilier, et là, nous avons des taux de capitalisation qui sont montés de 2,8%, 2,7% fin 2021 à 4,2% aujourd'hui, ça fait environ 30% de baisse de valeur. Est-ce que l'équilibre est atteint? En fait, tout laisse à penser que pas vraiment encore. Les différences de prix entre les prix de réservation des acheteurs et des vendeurs, le bid-ask, disons, de l'immobilier, est encore trop large pour assurer une liquidité normale du marché. On voit que ce bid-ask, cette offre-demande, cette fourchette entre l'offre et la demande, commence à créer des conditions de liquidité normales si le taux de capitalisation monte encore un petit peu, peut-être 4,5%. Donc, l'équilibre du marché est presque atteint, mais pas tout à fait, mais peut-être qu'on n'est pas loin. Parce qu'il y a des transactions qui se font à 4-5, mais pas encore assez nombreuses pour pouvoir juger que le taux de cap est à 4-5.
Donc en fait, les bureaux auraient perdu depuis mi-2021, ils auraient perdu quoi, 20%,
30%? Alors, il y a la valeur transactionnelle, qui correspond à la liquidité, ce serait peut-être de l'ordre de 20-30%, mais il y a la valeur d'expertise, qui est différente et qui sera bien moindre, puisqu'il y a toujours un lissage au niveau des valeurs d'expertise. Et là, par exemple, l'indice MSCI semestriel France entière, à mi-juin, baissé de l'ordre de 10% sur une année. Donc, en fait, je pense qu'on va finir sur un marché immobilier français en baisse de l'ordre de 10-12% en valeur d'expertise sur l'année 2023.
Alors, on va parler justement des valeurs d'expertise avec le sujet des SCPI. Certaines ont acté la baisse de leur patrimoine, ça a été le feuilleton de l'été 2023. Certaines ont surpris le marché en fin d'année en abaissant de nouveau le prix de leur part. On s'attend d'ailleurs à ce que d'autres gestionnaires le fassent d'ici la fin de l'année pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais est-ce que ces baisses, selon vous, sont suffisantes? Parce qu'on parle au plus de 17%, certaines de moins 10%. Est-ce que ces baisses sont suffisantes? Est-ce qu'elles vont se poursuivre en 2024?
Alors, jusqu'à présent, on a traité le marché immobilier comme un tout. En fait, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Comme vous le savez, il y a des quantités, comme je sais, il y a une quantité de segments différents, de géographies différentes, et donc de dynamiques différentes. Et les SCPI, sur les dernières années, se sont spécialisés, en particulier dans des segments tout à fait nouveaux, comme la santé, l'éducation,
la logistique.
Elles se sont ouvertes à l'Europe, et donc on peut pas s'attendre à ce que toutes réagissent de la même façon. On a environ un tiers de la capitalisation des SCPI investis en immobilier d'entreprise, qui a revu donc ses prix à la baisse depuis le début de l'année. Avec un premier jet d'AEW et d'Amundi qui ont corrigé fortement. Bon, en pondérant par la capitalisation, disons que la baisse est de l'ordre de 13%, ce qui fait que l'indice EDEC-IEIF qui traque l'ensemble des SCPI investis en immobilier d'entreprise pour le moment baisse de 4%. Il est certain que, parallèlement à cette baisse qui touche essentiellement les SCPI bureaux, d'autres SCPI, peu nombreuses, voient leur prix de part, en revanche, être ajustés à la hausse.
Oui, c'est le fameux débat entre celles qui ont des vieux patrimoines, entre guillemets, et celles qui sont en train de se les constituer. Oui.
Et puis celles qui sont dans des segments qui ont déjà corrigé. Le commerce a déjà beaucoup corrigé, la logistique. C'est les bureaux qui posent aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Il faut voir également ça dans une optique européenne. Et aujourd'hui, les deux grands pays d'épargne immobilière, c'est la France et l'Allemagne. Et en Allemagne, les fonds ouverts allemands, qui ont une taille supérieure à celle des SCPI, commencent à sentir le contre-coup de cette crise, puisque le portefeuille de Canab, enfin le principal fonds ouvert de Canab, ouvert en 2019, donc qui a acheté au plus haut du marché, mais des actifs de très grande qualité, des actifs verts loués à des administrations, donc tout à fait corps, eh ben ils ont baissé de 10% le prix de la valeur de part le mois dernier. Donc également en Allemagne, on a cet aspect. C'est un point important que les fonds immobiliers réagissent aux signaux de marché en s'ajustant à la baisse pour maintenir la confiance des épargnants.
Alors c'est justement ma question, est-ce que tout ont joué le jeu? Est-ce que le fait de faire ça par vagues successives, ce n'est pas détériorer la confiance que les épargnants ou les réseaux de distribution peuvent avoir dans les gestionnaires de SCPI?
C'est là où il faut que les gestionnaires de SCPI expliquent bien leur stratégie. Encore une fois, si une SCPI santé ou éducation peut ne pas voir sa valeur de part bouger, mais dans ce cas-là, il faut expliquer pourquoi, voire même monter. En revanche, pour celles qui ont effectivement des portefeuilles de bureaux banalisés, il faut impérativement jouer la vérité du prix de part. Ne serait-ce que également pour le bien du gestionnaire, parce que quelque part, il va réajuster son rendement courant et permettre à la collecte de repartir dans de bonnes conditions lorsque le grand public aura le sentiment que la crise est passée.
Et surtout, en fait, c'est aussi pour résoudre, entre guillemets, une partie du problème de liquidité qu'on connaît sur les CPI.
Exact.
Là, on en est où aujourd'hui en termes de volume global du marché? On est quoi, à 3% de...
Oui, alors, les SCPI sont des instruments très intéressants parce qu'ils ont développé, depuis leur création en 69-68, une pratique de la gestion de la liquidité qui est assez avancée. Et en fait, il existe des techniques de swing pricing, donc d'ajustement de la valeur liquidative autour de la valeur de reconstitution à plus ou moins 10%, qui permet d'ajuster les chocs. Mais également, il y a la possibilité d'avoir un fonds de remboursement par vente d'actifs. Et évidemment, il y a un prix à payer parce que la personne, si à vente d'actifs, il y a modification de la structure du portefeuille, et c'est évidemment pour éliminer l'avantage au premier sortant, la personne qui sort va sortir avec une décote par rapport à la valeur de réalisation dans ce cas-là. Donc, il y a tout un tas de techniques dans les SCPI qui ont été mises en place et qui permet d'assurer la liquidité. Le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est les parts en attente de cession qui augmentent de façon très nette parce que la collecte nette n'est pas suffisante pour avaler ces parts en attente de cession. Et là, on a aujourd'hui un problème qui est d'une ampleur telle qu'on devrait normalement, on ne peut pas exclure, mais on devrait normalement avoir des SCPI qui passent de capital variable à capital fixe, sans doute en début d'année prochaine, de façon à assurer la liquidité.
Ça serait un mauvais signal envoyé au marché.
Pas forcément. Disons que c'est un mauvais coup pour les épargnants s'ils veulent sortir. Personne ne les oblige à sortir. Le problème, évidemment, s'ils sortent, les acheteurs seront des acheteurs opportunistes. Donc, il y aura une décote importante par rapport à la valeur de réalisation.
Donc, votre conseil, c'est plutôt de rester sur les SCPI avec un horizon de redressement des marchés immobiliers à l'horizon 2025.
Voilà, exactement. Les SCPI sont la durée de détention moyenne est de 50 ans, donc restez-y.
On fera le point l'année prochaine. Pierre Schoeffer, merci beaucoup.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.